Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 août 2026 et vous écoutez Méditons ensemble avec le révérend Jean-Claude Coffi. Aujourd'hui, nous abordons la 22e partie du thème « La Bible et les quatre jugements majeurs ». Nous avons 6 textes de référence en ouverture de notre méditation et nous commençons par Daniel, chapitre 12 et verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Philippiens 4, verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Apocalypse 3, verset 5, il est écrit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Apocalypse 17, verset 8 « La bête que tu as vue était, elle est, et elle n'est plus, pardon, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. » Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20, verset 15, il est écrit « Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de sang, dans l'étang de feu, pardon. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Subséquemment à la méditation d'hier et conformément à ce qui a été promis, nous allons nous pencher sur le deuxième passage, Apocalypse 3, verset 5, dont la mauvaise interprétation et compréhension pourrait donner à croire que Dieu est susceptible d'effacer du livre de vie un nom qui y est déjà inscrit. Afin de lever définitivement cet équivoque, je me propose d'examiner ce texte avec vous sous l'angle de la rhétorique dont Christ a fait usage dans les propos qu'il a confiés à Jean. Je vous invite par conséquent à la lecture attentive du dit texte pour mieux nous imprégner des détails sur le plan de la rhétorique. Apocalypse 3, 5, il est écrit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Apocalypse 3, 5. Ce passage, lu sans tenir compte de sa dimension ou de sa forme rhétorique, peut embarrasser plus d'un enfant de Dieu sincère, car pris au premier degré, il semble suggérer qu'à condition d'être vainqueur, un enfant de Dieu peut avoir son nom être supprimé du livre de vie. Cette façon de comprendre ce texte a plongé plusieurs dans une confusion déstabilisante au point de troubler l'assurance du salut dans leur cœur. Or, en réalité, le Seigneur, dans ses propos, affirme avec une vigueur notoire tout le contraire de ce que les interprétations à minima laissent croire. En fait, en disant « Je n'effacerai point son nom du livre de vie », le Seigneur a recouru à une figure de rhétorique que plusieurs manquent de percevoir. Cette figure de rhétorique est la litote. Elle consiste à dire « moi » pour en suggérer davantage. Dans une litote, au lieu d'affirmer directement une idée, on nie son contraire pour créer un sens implicite beaucoup plus fort. Dans la litote, l'on dit « moi » pour faire entendre plus et souvent en employant une négation renforcée ou une double négation. C'est pourquoi, à moins de lire entre les lignes une pensée exprimée à travers une litote, le lecteur court le risque de passer à côté de la vérité que l'on veut transmettre. À titre d'exemple, rappelons-nous les propos de Paul en Actes 21, verset 39. Il dit « Je suis juif, reprit Paul de Tarse, en Sicile, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Actes 21, 39. Paul, au lieu de dire « citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance », il aurait pu dire « citoyen d'une très grande ville ». Mais au lieu de cela, il dit quelque chose du genre « citoyen d'une ville qui est non insignifiante ou qui n'est pas peu connue ». Ce qu'il voulait transmettre comme message était tout le contraire. Dans la littérature séculière, les exemples sont pléthoriques. « Va, je ne te hais point », dit-on dans le Cid de Corneille. Si le lecteur ne s'y prend pas bien, il pourrait penser que ce que Corneille a dit pourrait laisser supposer la possibilité de haïr son interlocuteur. Non, ce qu'il a dit doit être compris de la façon suivante. « Va, je t'aime ». Corneille n'avait fait qu'affirmer son amour en feignant de l'atténuer. De cette même façon, en choisissant de présenter sa pensée à travers une litote, le Seigneur a volontairement laissé planer la négation du contraire d'une vérité afin de l'exprimer avec plus de force, avec plus de persuasion. Ainsi, dans la phrase « Je n'effacerai point son nom du livre de vie », le Seigneur atténue l'éventualité ou la possibilité de la suppression des noms du livre de vie pour mieux affirmer son contraire, son impossibilité. En clair, ce que le Seigneur a dit de cette façon consistait à attirer notre attention sur l'impossibilité d'une telle démarche. Les co-auteurs du livre « Les temps de la fin de A à Z », Ed Hinson, Mark Hitchcock et Tim LaHaye, abondent dans le même sens et ont fait observer que la possibilité évoquée en Apocalypse 3:5 de voir son nom être effacé du livre ne doit pas être comprise comme une menace, mais plutôt comme une promesse que cela n'arrivera pas. L'utilisation de la litote, par laquelle une affirmation est faite en niant son contraire, véhicule l'idée en Apocalypse 3:5 qu'un nom inscrit dans le livre de vie ne pourra jamais en être effacé. À cela, ils ajoutent que la syntaxe grecque du passage contient une double négation impliquant que, de façon certaine, les noms ne seront pas effacés, soulignant sa fermeté dans cette promesse. Pour appuyer ce qui vient d'être dit, il importe que nous comprenions que notre salut a été conçu, décidé et planifié dans l'éternité passée. C'est ce qui explique que sur la terre, le salut est totalement imputé à Dieu comme un don et non comme une récompense en réponse à de quelconque mérite humain. De fait, dans l'éternité passée, Dieu a pris des dispositions concernant le salut et la vie éternelle. Ces dispositions dispensent le salut et la vie éternelle d'être subordonnées aux œuvres humaines. Elles font du salut une offre, un don, un cadeau, un présent, une faveur que Dieu fait à tout être humain. La vie éternelle est la conséquence immédiate. Comme cela est enseigné dans la Bible, nous lisons dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, et dans Jean 3, verset 36. Éphésiens 2, 8 et 9 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Jean 3, 36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Avez-vous remarqué qu'il est dit que celui qui croit a, et non aura, la vie éternelle? La vie éternelle est le partage dès à présent, de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Par conséquent, est-il admissible de penser que quelqu'un peut avoir la vie éternelle aujourd'hui pour en être privé demain, parce qu'il ne la mérite pas? Et puis, s'il prend conscience qu'il a perdu la vie éternelle et se repent de ses péchés, qu'il aurait disqualifié, il la regagne, en attendant de la reperdre pour la regagner. Quel cycle désolant! Si tel est le cas, qu'appellerons-nous assurance du salut ou certitude de la vie éternelle? Mes amis, mettons de côté notre logique, notre sensibilité et nos dogmes pour ne considérer que la sola scriptura, l'écriture seule, qui affirme que le salut est un don et non un geste divin récompensant une quelconque performance humaine. Au demeurant, ce que nous devons intégrer est que le salut étant un don, il est frappé, à l'instar de tous les dons que Dieu nous a faits, du sceau de l'irrévocabilité, selon qu'il est écrit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, ce qui veut dire que Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Logique, non? Romains 11, 29 dit « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Aussi, nous pouvons affirmer haut et fort que les noms inscrits dans le livre de vie ne courent pas le risque d'être effacés. C'est ce que la Bible enseigne. Bonne digestion. À retenir, le propos du Seigneur en Apocalypse 3, verset 5 est une forme de rhétorique appelée la litote. En empruntant cette rhétorique, la litote, le Seigneur veut faire comprendre et accepter l'idée de l'impossibilité de l'effacement des noms inscrits dans le livre de vie. L'impossibilité de l'effacement des noms du livre de vie est une vérité qui est en parfait accord avec l'irrévocabilité du salut en tant que don de Dieu. Tous les noms inscrits dans le livre de vie n'en seront jamais retirés. Tous les noms figurant dans le livre de vie y sont définitivement. Puisse le Saint-Esprit accorder à chacun l'illumination nécessaire pour bien comprendre ce que la Bible enseigne sur cet important sujet que sont les quatre jugements majeurs. Rappelez-vous, nous sommes destinés à faire des exploits avec Dieu, selon le psaume 60, verset 14. Excellente et enrichissante journée en Christ. Signé votre serviteur, le docteur Jean-Claude Coffi, ce jeudi 27 août 2026.